Valeur HI 203 et 209, Histoire médiévale. Cinquième cassette, première face présentée par Monsieur Neveu.
La villa carolingienne. Nous étudions la villa de Villeneuve-Saint-Georges. Il s'agit d'une explication de documents. Vous avez le texte qui vous a été remis. Je commence donc par la présentation, selon le plan classique que je vous ai indiqué. Il s'agit, vous le voyez en référence, d'un polyptyque. Ce mot, qui s'écrit avec deux Y, vient justement du grec poly, qui signifie plusieurs, et ptux, ptukos, qui signifie pli, c'est-à-dire mot à mot, plusieurs plis. Il s'agit d'un document qui était plié et qui désignait à l'origine, c'est-à-dire au 5e siècle, un livre de cadastre ou un livre d'impôt dans le cadre romain. En fait, quand on utilise ce terme à partir du 8e siècle, il s'agit de la description de biens fonciers, ce qu'on appelle à d'autres époques des livres terriers. Le plus célèbre des polyptiques carolingiens est celui de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Un mot sur cette abbaye. Il s'agit de l'ancienne église de Sainte-Croix-Saint-Vincent. Le monastère avait été fondé par le roi Childebert vers 550. Et c'était une abbaye très puissante et très riche. Le manuscrit a été rédigé entre 806 et 829, alors que l'abbé de Saint-Germain était irminent. Nous n'en possédons qu'un seul exemplaire. Il a été publié par Guérard au XIXe siècle. Dans ce document sont décrites 25 villes, autrement dit grands domaines, qui sont tous situés dans la région parisienne. Mais en réalité, ce polyptyque ne concerne qu'une partie des domaines de l'abbaye. Il manque au moins 16 villes. Nous avons affaire, par conséquent, à un patrimoine extrêmement important. Nous possédons d'ailleurs d'autres polyptiques pour d'autres abbayes, par exemple Saint-Bertin, Saint-Rémy-de-Reims ou Prume. Mais celui de Saint-Germain-des-Prés est le plus célèbre. Cet extrait du polyptyque de Saint-Germain décrit avec précision l'une des villes de l'abbaye, c'est-à-dire celle de Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges est aujourd'hui un chef-lieu de canton du département de Val-de-Marne. Cette localité est située sur la Seine, au confluent de la Marne, à proximité de ce confluent. J'en viens maintenant à la deuxième partie de l'explication, à savoir l'analyse. Il est bien sûr indispensable de faire une analyse littérale. Mais je ne la ferai pas ici, je passerai immédiatement à la seconde étape, c'est-à-dire à l'analyse recomposée en fonction d'un plan logique. Voici le plan que j'utilise. Première partie, la réserve. Deuxième partie, les tenures. Troisième partie, les cultures. Première partie, la réserve. Il s'agit du manse de maître qui est décrit au premier paragraphe du texte. Le maître en question est bien entendu un maître collectif. C'est l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Le mot « manse » que nous allons retrouver à plusieurs reprises dans le texte signifie « unité d'exploitation ». Il s'agit ici de la partie qui est exploitée directement par le maître. Elle comprend quatre éléments. D'une part, la maison et les bâtiments d'exploitation. D'autre part, les terres arables, qui mesure 172 bonniers. Le bonnier est une mesure de superficie qui représente 1 hectare 28. Cela fait donc environ 220 hectares. C'est une vaste réserve située sur le plateau. Il y a encore la vigne qui représente 91 arpents. Un arpent équivaut à 12 arts 64 centiards, ce qui fait à peu près 12 hectares. La vigne est donc de grande importance. Nous sommes dans une région de vignobles sur les coteaux de la Seine, exposés pourtant à l'ouest. Mais il y a aussi une petite rivière, l'Yerre, et ses coteaux sont exposés nord et sud. La vigne se trouve donc probablement sur ce coteau de l'Yerre, Y-E-2-R-E-S. Ensuite, nous avons le pré, 166 arpents, c'est-à-dire environ 20 hectares. La prairie est également très importante. Nous sommes dans une zone de vallée. Ensuite, il est précisé à la ligne 6 qu'il y a 3 fariniers. Ce sont des tenanciers de moulins. Il s'agit très probablement de moulins à eau, également situés sur l'Yerre. Ils versent donc un cens, c'est-à-dire une redevance fixe due au seigneur. Un quatrième farinier n'est pas encensé, il verse probablement au seigneur une partie du grain, ou plutôt de la farine. Dernier élément, le bois, qui mesure 4 lieues de tour, c'est-à-dire environ 8,8 km. C'est une forêt qui permet d'engraisser 500 porcs. C'est ainsi que l'on mesure les forêts à cette époque. C'est donc une forêt relativement petite. Les tenanciers y ont des droits d'usage. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, deuxième paragraphe, à partir de la ligne 10, il est question des terres de l'église. Ces terres ne font pas tout à fait partie de la réserve. Il y a une seule église, c'est le cas le plus normal, qui signifie qu'il y a coïncidence approximative entre domaine et paroisse. Cette paroisse a donc donné naissance à la commune actuelle, avec 30 000 habitants environ aujourd'hui, mais beaucoup moins évidemment à l'époque carolingienne. Les terres de l'église représentent un petit domaine satellite. Vous avez un bâtiment agricole, une habitation, et le prêtre, un seul est nommé, a ses hommes, autrement dit ses tenanciers, ses vassaux, qui tiennent 3 manses, c'est-à-dire 3 exploitations. La terre représente 27 bonniers, une encenche, soit environ 34 hectares. La vigne, 17 arpents, soit environ 2 hectares, et les prés, 25 arpents, soit environ 3 hectares. Le seigneur tire profit des terres de l'église. Il reçoit un cadeau, entre guillemets, et plus précisément, un cheval. Et d'autre part, vous avez le service des tenanciers du prêtre sur la réserve. Les terres de l'église sont donc considérées d'une certaine manière comme de simples tenures, puisque leurs tenanciers doivent participer à l'exploitation de la réserve. Ceci m'amène à la deuxième partie, qui est consacrée aux tenures. Le nombre des tenures ne nous est pas indiqué, mais ce qui frappe dès l'abord, c'est l'inégalité entre les manses. On distingue en effet manses libres et manses serviles. Les manses libres sont des tenures plus vastes, en principe, mais ce n'est pas toujours évident, et doivent des services et des redevances particulières, notamment de lourdes taxes concernant l'os, nous y reviendrons, et également des travaux qui nécessite l'emploi d'un attelage. D'autre part, les manses serviles sont en principe des tenures plus petites. Les services exigés sont des services de bras et des services domestiques. Lignes 40-41 et 48-49. Cependant, il n'y a aucune coïncidence entre le statut du manse et celui des hommes qui l'occupent. Car les mariages entre colons, libres et esclaves favorisent les discordances. Prenons quelques exemples. Nous avons d'abord, ligne 18, le cas d'Actar, colon, et de sa femme Colon, tous deux sont donc colons, par conséquent libres, qui tiennent un manse libre de 5 bonniers, 2 ensanges, ce qui fait environ 6 hectares 6. Par la suite, nous avons Adalgarius et sa femme, esclaves, et plus loin Advoud et sa femme, également esclaves, qui tiennent d'une part un manse servile et d'autre part un manse libre. Ces manses sont petits, en particulier le manse libre, et qui ne représente que un bonnier et demi, soit environ 2 hectares. Vous avez également Herménold Colon et sa femme esclave, de même Foucault et sa femme esclave, qui tiennent un manse servile de 2 bonniers, 1 ensange et demi, soit environ 2 hectares 7. On se rend donc compte que les distinctions juridiques sont en voie d'effacement dans la population paysanne. Et en fait, de plus en plus, les villageois sont considérés sur un pied d'égalité, qu'ils soient au départ colons, c'est-à-dire libres, mais attachés au domaine, ou esclaves. Tous, en effet, sont appelés hommes de Saint-Germain, aux lignes 18, 32, 34 et 44, c'est-à-dire dépendants du Seigneur, ici bien sûr l'abbaye de Saint-Germain. C'est ce qui compte, c'est là l'important. Ils entrent en quelque sorte dans le cadre de la vassalité, puisque le mot homme signifie vassal. L'inégalité entre les manses est aggravée par les différences de peuplement d'un manse à l'autre. Par exemple, le manse d'Actar, mesurant 6 hectares 6, comprend 8 personnes, alors que celui d'Adalgarius et Advoud comprend 9 personnes pour 2 hectares environ. Et celui d'Herménold et Foucault, 4 personnes pour 2 hectares 7 environ. Les manses sont transmis par héritage, mais la situation semble figée. On n'attribue pas de nouveaux manses quand il y a renouvellement des générations et chaque famille doit se débrouiller en quelque sorte. Les tenures ont été cédées par le seigneur, sans doute depuis longtemps, et les rapports entre seigneur et tenancier sont fixés par la tradition. Nous sommes là au cœur du système domanial classique. Les tenanciers doivent au seigneur toute une série de redevances et de services. On peut distinguer plusieurs types de redevances. D'une part, les redevances en argent, autrement dit rentes, qui sont, d'une part, les taxes de remplacement du service militaire, autrement dit hoste. Évidemment, ces redevances ne sont payées que par les seuls tenanciers libres, par exemple, ligne 22. Vous avez d'ailleurs une alternance sur 3 ans. Une année, le tenancier paie 4 sous d'argent, la seconde année 2 sous, et la troisième année, brebis et agneaux. D'autre part, il y a une taxe pour l'usage du bois, qui vaut également pour les hommes libres, 4 deniers pour l'usage du bois, nous en reparlerons. Deuxième type de redevance, ce sont les redevances en nature. Vous avez le droit de paissons, par exemple ligne 25, 2 muis de vin, ligne 38, 3 muis de vin, 1 sautier de moutarde, 50 osiers, 3 poules et 15 œufs. D'autre part, les charrois, une mesure de bois, 50 bardeaux. Alors également la redevance de l'os dont nous avons parlé tout à l'heure pour la troisième année. Et en ce qui concerne les terres de l'église, le cheval, ligne 15, dont nous avons déjà parlé également. Troisième type de redevance, les redevances au travail, qu'on peut appeler également prestations. Il y a d'une part les prestations fixes, c'est-à-dire les labours, uniquement pour les colons libres, car on suppose qu'ils disposent d'un attelage. Ils doivent donc labourer 4 perches pour les blés d'hiver et 2 perches pour les blés de printemps. Blé d'hiver, c'est-à-dire froment et seigle, blé de printemps, trémois, c'est-à-dire mélange d'avoine et d'orge. La différence s'explique par un travail double sur la solde d'hiver. On laboure donc à 2 reprises. Mais en fait, la surface cultivée en froment et en seigle équivaut à celle qui est cultivée l'année suivante en blé de trémois. Vous avez donc une rotation des cultures, nous y reviendrons également. Autre prestation, la clôture des prés, ligne 17 et 30. Et pour les esclaves, travail sur la vigne du maître, ligne 37. En dehors de ces prestations fixes, nous avons des prestations illimitées, notamment les corvées, corvées de bêtes et de bras illimitées pour les hommes libres, et corvées de bras pour les esclaves qui ne sont pas censés disposer de bêtes de trait. En principe, ces prestations illimitées sont des charges caractéristiques de la servitude. Mais ici, on se rend compte de l'atténuation des différences de conditions. Quant aux femmes esclaves, elles doivent des travaux de couture. La serge est un tissu à côte, il s'agit donc du tissage, et également, elles doivent des volailles. Les femmes libres ne sont pas astreintes à ce genre de travail. Le travail des tenanciers, ajouté à celui des esclaves domestiques, permet donc de cultiver la réserve. Du point de vue de l'exploitation agricole, les manses des tenanciers semblent des manses de maîtres en réduction. En effet, on y trouve à peu près les mêmes cultures. Ceci m'amène à ma troisième partie qui est consacrée aux cultures. Toutes les exploitations contiennent à la fois des champs, des prés, des vignes, puisque le village est situé, nous l'avons dit, dans le vignoble de la région parisienne. La culture essentielle est celle des céréales. Son importance est confirmée par la présence des 4 fariniers, autrement dit meuniers, dont nous avons déjà parlé. Il n'y a pas de précision sur les céréales. Cependant, il est prévu 800 muis de semences pour 172 bonniers. Malheureusement, l'équivalence est difficile à faire et il est difficile de savoir à quoi ça correspond exactement. Cependant, il est certain qu'il y a un assolement. Vous avez d'une part les blés d'hiver, froment et seigle, d'autre part les blés de printemps, la seconde année, sur la même terre, avoine et orge, et peut-être aussi d'autres céréales comme l'épeautre, le métail, qu'on trouve dans d'autres domaines. La troisième année, c'est la jachère, et on laisse la terre se reposer. Sur la jachère, vous avez un troupeau collectif qui appartient à la fois au maître et au tenancier. Les tenanciers paient justement le droit de paissant pour placer leurs animaux dans le troupeau collectif. Deuxième élément, c'est la vigne. La vigne est travaillée notamment par les esclaves, ligne 37-38. Concernant la vigne, nous avons une indication de rendement, 1000 muis, ce qui fait entre 520 et 680 hectolitres. Donc environ, soyons très prudents, entre 44 et 57 hectolitres à l'hectare. Mais les chiffres sont très difficiles car on ne connaît pas très exactement l'équivalence du muis. Ensuite, vous avez une grande importance de la prairie. 170 arpents dans la réserve, sans compter ce qui appartient aux tenues. Les tenanciers doivent clore les prés de la réserve. Il s'agit de barrières légères qui sont abattues tous les ans et qui protègent les prés de fauges, car l'usage quasi exclusif des prés est de fournir du foin pour l'hiver. Il y a donc 166 chars de foin prévus pour la réserve ligne 6. Cela permet évidemment l'élevage pendant l'hiver, bovins et ovins qui sont signalés dans le texte, et chevaux, notamment celui qui est signalé à la ligne 15. Mais l'élevage est également pratiqué dans la forêt, puisque vous avez un bois de 500 porcs. Les porcs sont laissés quasiment en liberté dans la forêt. Le bois, d'ailleurs, sert également aux tenanciers. Ligne 26, vous avez une redevance pour l'usage du bois. Il s'agit surtout de bois de chauffage, mais la coupe est mentionnée par les 50 bardeaux qui sont demandés une année sur trois, ligne 26-27. Enfin, le maître pratique probablement l'exploitation forestière dans ce bois. J'en arrive à ma conclusion. Il s'agit d'une villa carolingienne tout à fait caractéristique. D'une part, la réserve, d'autre part, les tenures qui doivent des redevances. Ce qui caractérise cette villa par rapport à d'autres, c'est l'importance de la réserve et de la bourre, l'importance de la vigne et l'importance des prés. Mais évidemment, cela tient à la situation de Villeneuve-Saint-Georges, sur le plateau, ce qui explique la grande culture, dans la région des vins de France, ce qui explique l'importance de la vigne, et dans une zone où les vallées de la Seine et de l'Yerre sont très importantes, ce qui justifie l'importance des prés. En revanche, la forêt est relativement peu importante. Il y a donc équilibre entre les divers éléments. D'autre part, ce texte nous permet de saisir une étape dans l'évolution de la villa. À l'époque romaine, l'élément esclave était tout à fait prépondérant dans l'exploitation des domaines. Ici, vous avez encore des esclaves, mais la plupart des esclaves sont casés. Et vous avez de nombreux colons et qui permettent, avec les esclaves, d'exploiter le domaine. Il y a une réserve à faire, c'est qu'il s'agit d'un domaine ecclésiastique et même, plus précisément, d'un domaine monastique. Ces domaines sont sans doute mieux gérés que les domaines laïcs et surtout, ils sont protégés de l'émiettement. Il n'y a pas de partage successoraux, bien entendu. C'est donc peut-être une fausse image des grands domaines aristocratiques qui nous est donnée. Malheureusement, nous n'en avons pas d'autres. Tels qu'ils sont, les polyptiques sont des documents essentiels. Ils représentent l'image du grand domaine et nous permettent de connaître un maillon très important dans l'histoire rurale de l'Occident. Je vous ai présenté un plan type assez facile pour ce genre d'explication, mais évidemment, il y a toujours plusieurs plans possibles. Et je vais vous indiquer en complément quelques autres possibilités de plans. Car j'ai choisi un plan qui suit à peu près le texte, ce n'est pas forcément le plan idéal. Il vaut mieux choisir un plan différent de celui du texte. Prenons un autre exemple de plan. Première partie, les éléments du domaine. Donc, réserve d'une part, tenure d'autre part. Deuxième partie, le système des redevances que nous avons étudié de notre côté. Troisième partie, l'économie domaniale. Deuxième exemple de plan. Première partie, les structures de la villa. Deuxième partie, les relations entre seigneurs et tenanciers. Troisième partie, la population du domaine. Vous voyez donc qu'il y a toujours possibilité de faire plusieurs plans, et la confection du plan est l'élément essentiel de l'explication de documents.